Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Stéphane Carcillon, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes.
Eh oui.
Eh oui, partenaire de cette émission le jeudi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous avez publié Les discriminations au travail aux presses de Sciences Po. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, qui a coécrit Une autre voie est possible. Vers un modèle social-écologique chez Flammarion Champ Actuel. Et Emmanuel Combes, professeur à la Schema Business School, qui publie la 16e édition de son précis d'économie aux presses universitaires de France. Je vous montre l'ouvrage.
Et avec ça, j'en vends pas, c'est à désespérer.
Ah ben, faut y aller. C'est pour les étudiants de quelle
oui,
année?
Oui, de post-bac, qu'un plaque classe ne passerait pas.
Stéphane Carcillo, je vous ai lu dans Les Échos écrire tout récemment « Si on réduit d'un mois la durée d'indemnisation à l'assurance chômage, généralement on réduit de 10 jours la durée passée au chômage », c'est ça ?
Donc, c'est à peu près l'élasticité qu'on a dans les études, la trentaine d'études où c'est à peu près bien identifié, le lien de cause à effet, à peu près bien identifié.
On va pas rouvrir, on a discuté de ça déjà, je vous ai entendu chez nos confrères de 28 minutes parler de ce sujet et donner à peu près les mêmes éléments. Le gouvernement n'a pas tranché pour savoir les paramètres qui accompagneront cette réforme de l'assurance chômage. Tous les experts dont vous faites partie considèrent que c'est le paramètre. Faut-il que ce soit territoire par territoire ? Sur cette question, Olivier Dussopt a dit non. Et quand on regarde l'exemple canadien, on regarde quand même les bassins d'emploi pour dire bah, c'est pas pareil d'être là, que là, que là, que là. Alors, on peut pas durcir autant là parce que c'est très très dur de trouver un job. Par contre là, on peut durcir beaucoup parce que Dieu sait s'il y a de l'emploi. C'est ça le vrai sujet ?
Alors, je pense pas que ce soit le vrai sujet pour la France.
Ah, bon.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Bon.
Alors effectivement, au Canada, la durée maximale d'indemnisation varie en fonction du taux de chômage observé au moment de son inscription. Donc on joue sur le flux entrant. Et ça dépend du taux de chômage observé dans la région. Et la région, c'est pas les provinces. C'est des régions définies pour le système de chômage. Alors, dans le Grand Nord, c'est tout l'État. Et puis, au Québec, c'est beaucoup de petites régions, un peu comme nos zones d'emploi. Hein, donc, c'est un peu plus fin que ça. Dans un système où la durée moyenne d'indemnisation, la durée maximale d'indemnisation, pardon, c'est environ 8 mois en ce moment. Donc c'est très court. Ça varie entre 2 mois et demi et 8 mois. Quand le taux de chômage est très très élevé, ça va au maximum jusqu'à 1 an. Donc on est dans un système où on indemnise à l'entrée en fonction du taux de chômage sur une période de toute façon très courte. Aux États-Unis, ça dépend du taux de chômage de l'État, de sa variation et du niveau. Attention, deux critères. Et c'est sur le flux sortant que ça joue. C'est-à-dire qu'on augmente la durée d'indemnisation des gens qui arrivent en fin de droit et uniquement des gens qui arrivent en fin de droit. En fonction de ce taux de chômage. Et ça permet finalement de traiter peut-être plus précisément le problème, qui est le problème des gens qui arrivent sans rien au moment où l'économie va mal, hein, plutôt que de traiter, voilà. Donc, et dans un système où aux États-Unis, où du coup l'extension peut aller très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on a au Canada, puisqu'on peut aller jusqu'à presque 2 ans dans les périodes de crise avec un système à 2 étages, hein. Donc, on peut rajouter 6 mois automatiquement et puis l'État fédéral peut rajouter derrière. Alors en France maintenant, donc on n'a pas cette automaticité, on réfléchit à cette modulation autour du cycle économique. D'un point de vue vraiment théorique, c'est une bonne chose à faire parce que du coup on insiste sur un objectif de l'assurance chômage ou l'autre en fonction de ce qui est le plus efficace. Quand l'économie va bien, vous l'avez dit, il faut insister sur le retour à l'emploi, c'est ce qui est le plus efficace parce que il y a des coûts d'efficacité forts de l'assurance chômage. Lorsque l'économie va mal, au contraire, il est très efficace de bien indemniser. On renforce l'effet stabilisateur automatique. Donc, sur le papier, c'est effectivement ce qu'il faut envisager. Est-ce qu'il faut le faire territoire par territoire ? Ça n'a de sens que s'il y a une certaine, en fait, homogénéité du territoire. C'est-à-dire qu'il faudrait que, pour que ce système marche, il y ait beaucoup d'hétérogénéité entre les territoires que vous considérez. Du coup, vous vous dites, si je commence à moduler alors qu'il y a 16% ici et 4% là, les gens vont se retrouver dans une situation critique là où il y a 16% parce que j'ai baissé le taux. Ouais. Mais il faut qu'à l'intérieur du territoire, ce soit très homogène. Alors pour ça, ça ne peut pas être les régions. Parce que moi, j'ai regardé les taux d'emploi de l'INSEE, donc les taux d'emploi au niveau des zones d'emploi. Les zones d'emploi, c'est des toutes petites zones économiquement bien homogènes dans lesquelles les gens peuvent circuler de la maison jusqu'au travail. D'accord. Il y en a 350 en France, environ, un petit peu plus. Et ces zones d'emploi, quand on regarde ces zones d'emploi, le taux de chômage est mesuré par ces zones d'emploi. Il est relativement homogène, par définition. C'est une zone un peu économiquement homogène. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plus de différences à l'intérieur des régions dans taux de chômage qu'entre les régions. Donc déjà, il ne faudrait pas le faire au niveau régional, il faudrait aller en dessous.
Pourquoi pas ?
Et à ce moment-là, il faudrait le faire au niveau de la zone d'emploi.
Ça 350 dire... cas.
Oui, bon, mais alors à ce moment-là, ça devient tellement petit que ça crée des problèmes d'optimisation. Parce que c'est très facile d'aller habiter dans une zone et de s'inscrire dans une autre. Alors qu'au niveau des régions, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on se dit que finalement c'était une bonne idée, mais que ça va nous emmener vers quelque chose qui est déjà très compliqué. Alors déjà qu'on va faire moduler en fonction du taux de chômage et de sa variation, déjà il va falloir quand même se poser la question, voilà. Si en plus ça change d'une région à l'autre, les gens sauront vraiment plus du tout où ils en sont. Et comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, la clarté, c'est vraiment très important. Il faut que les règles soient claires.
Et dans un pays qui est déjà régi par la défiance, où chacun pense qu'il est moins bien traité que son voisin, c'est quand même la grande caractéristique de la France, vous renforcez encore l'idée pourquoi celui qui est juste en face, à 10 km. Mais j'aime beaucoup l'idée de Stéphane, c'est en fait on est pris entre la précision, donc la justesse du raisonnement, et puis en même temps, ça va créer de la dissonance sociale, de se dire pourquoi moi j'ai droit à ça et pas toi. Et il va y avoir des arbitrages. Et puis, autre point, qui va décider, in fine, est-ce que ça sera une règle automatique qui est fixée ex ante en
la
disant,
météo
par exemple,
passe du soleil à la pluie.
Voilà, mais c'est quoi la météo? Est-ce que ça va être un groupe d'experts? Et j'ai rien contre les groupes d'experts, loin s'en faut, mais qui vont donner un avis, sachant que le gouvernement fera ce qu'il veut un petit peu après. Ouais. Enfin, on tourne toujours sur les mêmes problèmes, qui sont un peu toujours éternels, qui est quel va être le statut de ce groupe d'experts? Est-ce qu'il sera indépendant? Est-ce que ses recommandations seront. Vous voyez, est-ce que ce sera une autorité indépendante?
Ça fait deux minutes qu'on parle du sujet, non, mais je suis démoralisé.
L'idée est super intéressante.
Les gens qui nous écoutent se disent, bon, on change rien.
L'idée est super intéressante, mais j'ai déjà appris, grâce à Stéphane, moi j'étais resté sur les départements, hein. Faut le rappeler que les départements, les écarts de taux de chômage, c'est 50%. Moi, j'étais halluciné. Les Hauts-de-France, c'est 9,7. Je crois que la Bretagne, c'est 6,5, ce qui est bien 50% d'écart. Mais en réalité, à l'intérieur même d'un département, on a des hétérogénéités. Donc, on va créer quand même beaucoup de défiance. Hein. Pourquoi toi, qui es situé juste en face, tu as droit à plus que moi?
Bon, c'est foutu, Eric.
Non, je dis pas ça, mais.
Non, c'est foutu, alors. Mais alors, c'est foutu, parce qu'après, il faudra se poser la question, comme pour les retraites, à quoi ça sert une réforme de l'assurance chômage?
À augmenter le taux d'emploi, alors, monsieur Ayer.
D'accord. Mais c'est pas comme ça qu'on nous la vend. Hein. C'est, on nous dit, parce qu'on est en déficit, mais il faudra dire. Mais juste avant, si je peux juste donner.
C'est balèze, le déficit actuellement. Enfin, la dette.
On a doublé
avec Covid.
Si je peux compléter ce que vient de dire Stéphane sur les deux cas canadiens.
Pas trop long, parce que
je suis canadien et américain, je me dépêche. Et je pense que ce qui est intéressant et qui n'est pas souvent souligné, c'est qu'il y a aussi l'éligibilité, d'accord ? Dans le cas canadien, vous voyez, eh ben, en fait, quand on dit en France, on a toujours le système le plus généreux, il nous faut quand même avoir travaillé 910 heures pour avoir droit à l'assurance chômage en France. Au Canada, c'est soit 400, soit 700, selon la conjoncture. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile quand même d'accéder à l'assurance chômage canadienne que française, même dans le
cas.
Pourquoi
pas bouger ce paramètre aussi ?
Non, mais d'accord. Mais toi, on a souvent tendance à dire on est toujours.
On peut le faire.
Oui, d'accord. Mais on est toujours les plus généreux. Non, vous voyez, on accède bien plus facilement à l'assurance chômage au Canada qu'en France.
Il y a des pays beaucoup plus durs aussi.
D'accord.
Donc, bon. Okay.
Mais le Canada, on a parlé que de l'indemnisation. Il y a le troisième paramètre. Ça, c'est le premier cas. Et dans le cas américain, vous voyez, c'est pas du tout on durcit quand ça va bien et on assouplit quand ça va mal. C'est tout. On assouplit quand ça va mal. On durcit pas quand ça. Et je pense que le cas américain est bien plus intéressant.
On parle de 6 mois. Hein.
Non, mais d'accord. Mais
voilà.
Oui, mais. Alors, attends, c'est très important. On ne parle pas de 24 mois maximum.
Non, mais je termine.
Socle, il va en
Oui, mais d'accord. Mais c'est ça qui est important. C'est qu'il y a. Et dans le message. Et c'est pas financé pareil. L'assurance chômage aux États-Unis, c'est la même chose. Ça ne bouge pas. L'extension, c'est payé par l'État. C'est pas payé par l'assurance. Mais ça, c'est important.
Vous voyez, c'est pas le même. C'est le cas chez nous.
Mais. Alors, non.
C'est payé par l'impôt. de plus en plus.
Non, l'activité partielle, ça a été payé aussi par l'UNEDIC. Donc non, donc quand c'est ça. Donc je pense que c'est important, l'assurance chômage, et là je viens au cas français, c'est une assurance, il faut pas que ça bouge dans tous les sens. C'est déjà contracyclique, contrairement à ce qu'on dit. C'est contracyclique déjà. C'est-à-dire que c'est le système de social qui est le plus contracyclique parce que les recettes et les dépenses dépendent déjà de la conjoncture. Donc c'est moi je suis pas sûr qu'il faille encore jouer sur ces paramètres-là. Il faut dire l'assurance, elle est telle quelle, et ensuite l'État peut, quand ça va mal, effectivement, comme aux États-Unis, eh ben aider. Alors après, on peut dire, on va durcir ces conditions. Et là, on en revient. Pourquoi on durcirait aujourd'hui les conditions?
Ah, mais j'ai pas dit aujourd'hui.
Non, mais
l'idée de la réforme, c'est de mettre un truc à géométrie variable. Ça
oui,
veut pas dire que
non,
ça va varier maintenant.
C'est aussi faire des économies entre
bien
nous,
sûr.
parce que. Et là, moi, je suis en désaccord avec ce que j'entends souvent sur le système d'assurance chômage est déficitaire. Moi, ça, effectivement, quand vous regardez les chiffres, vous dites, bah oui, il y a 60 milliards de dettes, 62 milliards de dettes, donc c'est déficitaire.
Contre un niveau habituel de 35.
Ok, mais essayons de comprendre pourquoi c'est déficitaire. Mais c'est pas déficitaire à cause de l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est des cotisations, d'accord, et de l'indemnisation chômage. Si vous regardez ça, c'est excédentaire. Ça n'a jamais été déficitaire. C'est excédentaire.
C'est déficitaire parce que ça finance Pôle emploi.
Mais voilà. Eh ben, on en revient. On t'a lu dans les échos.
C'est une vision tellement française.
Eh ben, non, mais tu donneras. Non, mais tu donneras ton avis. Pourquoi, selon moi, c'est déficitaire? D'abord, c'est déficitaire parce qu'on paye les intermittents du spectacle pour avoir une culture de qualité. Est-ce que ce coût-là qui est 1 milliard par an, est-ce que seuls les salariés qui ont cotisé ont droit d'aller voir un spectacle de qualité? Non, tout le monde. Les retraités, les chômeurs, les indépendants. Donc ça doit être financé par de l'impôt. Ça doit pas être financé par de l'assurance.
Budget de la culture.
C'est pas les chômeurs aujourd'hui qui doivent financer ça.
Non, mais ça, c'est clair.
Non, mais d'accord. Oui, mais donc vous enlevez ça. Si vous enlevez, en plus, le fait que Pôle emploi, l'UNEDIC verse 4,3 milliards.
J'étais resté à un peu moins, mais d'accord.
Ben, c'est passé à 11% depuis 2020. Ça fait 4 milliards chaque année pour financer du service public. Ça, c'est de l'impôt qui doit le financer ou au cours marginal. Ça fait gagner, ça, 3 milliards par an à l'assurance chômage. 3 milliards par an depuis 12 ans, ça vous fait déjà 40 et quelques milliards. Et ensuite, l'activité partielle, c'est 12 milliards. Vous regardez tout cela, vous n'avez plus de dette. Donc, se dire aujourd'hui, c'est mal géré par les partenaires sociaux et donc il faut donner ça à l'État.
J'aime bien ce qui a été dit.
Ah ben, c'est un peu
l'État
ça.
L'État veut mettre la main dessus, mais...
Eh ben oui, mais vous voyez que c'est pas mal géré par les partenaires sociaux. Ils ont des cotisations et ils ont une assurance. C'est équilibré. Et donc, si c'est déficitaire, c'est parce qu'on fait payer à l'assurance chômage.
Des choses qu'elle ne devrait pas payer.
Des choses qu'il ne devrait pas payer, qui devraient être payées par l'impôt. Vous faites ça, mais ça, c'est une réforme qui vous fait dire est-ce que c'est généreux ou pas généreux. Là, aujourd'hui, se dire il faut taper sur les chômeurs pour financer cela, je ne comprends pas ce système.
Le raisonnement d'Éric en quelques mots, parce que j'ai plus que 14 minutes, je veux absolument donner la parole à Emmanuel Combes sur des sujets...
Justement, assez d'accord avec ce que dit Éric, mais là, le raisonnement est complètement fallacieux.
Ah, c'est terrible,
pour le coup, complètement fallacieux. L'assurance chômage, dans aucun pays, ce sont des assurances qui sont stand-alone, isolées, comme des régimes privées. Partout, c'est financé en partie par l'État et en tous les cas, très bien coordonné avec l'accompagnement, les mesures actives, le conseil... C'est jamais pensé de manière indépendante. Ça marche ensemble. Et l'État a un rôle hyper important. D'ailleurs, les partenaires sociaux ne décident des règles dans aucun pays ailleurs qu'en France. Le fait que l'assurance chômage contribue au service public de l'emploi, contribue aux mesures d'accompagnement, c'est normal.
Il y a la culture. Et
il doit être calé.
Il y a la culture aussi.
La culture, c'est une spécificité.
Eh ben oui, mais déjà,
en
on ouvre pas ce dossier, s'il vous plaît.
C'est tout à fait normal. Donc, c'est un régime qui est structurellement déficitaire sur les 20 dernières années. 15 ans de déficit, 5 ans d'excédent. Éric peut aller le regarder, il n'y a aucun problème.
Mais c'est dans les statistiques. C'est déficitaire depuis 2008.
Depuis
qu'on a décidé de financer Pôle emploi avec.
C'est 75%, c'est déficitaire.
Non.
Ça coûte beaucoup plus cher que partout ailleurs dans les pays européens. Donc il y a un vrai sujet. Je suis désolé, il y a un vrai sujet. Et c'est un régime qui demeure extrêmement généreux en comparaison internationale, contrairement à ce que Éric vient de faire avec une manière un peu optique, infiniment plus généreux qu'au Canada et qu'aux États-Unis, puisqu'en fait, il faut avoir travaillé 2 ans pour avoir 2 ans d'indemnisation chômage. On n'atteint jamais cette indemnisation au Canada. Il faut avoir travaillé 4 ans en Italie, 8 ans en Espagne, toute une vie aux Pays-Bas pour atteindre 24 mois. Et tous les autres pays, en moyenne, ne donnent jamais plus que 12 mois d'indemnisation. Et en France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'essentiel des demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire à Pôle emploi ont droit à 2 ans d'assurance chômage. 60% du flux entrant est à 2 ans d'assurance chômage. Il y a encore 15% qui a droit à 36 mois parce qu'ils sont des seniors. Donc vous avez presque 80% des personnes qui sont à cette durée maximale extrêmement longue, quelle que soit la situation économique. Donc c'est un régime très protecteur. C'est très bien quand l'économie va mal, évidemment. Mais c'est un régime qui coûte extrêmement cher aux salariés, parce que c'est eux qui paient, à l'État, parce qu'il y a des déficits. Et c'est un régime qui est pas bien calibré. Voilà. Bon. Donc il y a vraiment un vrai gros sujet, et c'est une vision extrêmement française que de penser que ce régime devrait être stand-alone. Ce régime doit être coordonné avec les minima sociaux. Il est financé en partie par l'État. Il doit financer aussi l'accompagnement, parce que ça fait partie de ses missions. C'est d'être totalement coordonné. Il ne vit pas en vase clos comme une assurance privée. Ça n'est pas possible. Et il fait énormément de redistribution en plus, ce système. Donc ça n'est pas une pure assurance, contrairement à ce qu'on pense. Et ça n'est nulle part une pure assurance.
Commençons par changer de nom.
Bon, alors, on va commencer par attendre que ça avance, ce sujet, parce que là, sinon, bon.
Parce qu'on parle en dernier qu'on a raison.
Ah non,
et
non
donc, dire que ce qu'a dit Elodot est fallacieux, c'est pas vrai. Il y a un autre point de vue. Il y a un point de vue qui est l'assurance chômage et les chômeurs doivent payer un certain nombre de dépenses et on les caricature en disant c'est vous qui coûtez trop cher à la société. Moi, j'ai un autre point de vue en disant certaines dépenses doivent être payées par un grand nombre de personnes en dehors des salariés. C'est un autre point de vue. Je conteste l'histoire de fallacieux, et parce que c'était à l'équilibre en 2008, curieusement sans déficit, depuis qu'on demande à l'UNEDIC de payer 11% à Pôle emploi pour financer un service qui est ouvert à tout le monde et pas uniquement aux chômeurs qui ont cotisé.
J'admets que ça méritait le droit de réponse et je suis pas du tout du genre à croire que celui qui a eu le dernier mot avait raison. Et moi je vous prends un pari, c'est que dans 2 ans, c'est plus une assurance, c'est un service d'État complètement piloté par l'État, les partenaires
sociaux seront exigés. Et ça sera financé par de l'impôt. Et d'accord. Voilà. Et ben ok, mais ça sera beaucoup plus clair.
Mais dans les différents pays, les contributions sociales contribuent à l'assurance chômage et l'impôt aussi en partie. Mais c'est pas parce que c'est payé par des contributions sociales que ça doit être un régime autonome et privé. Les contributions sociales, c'est de l'impôt.
Ça ouvre des droits. Dans les prélèvements obligatoires, il y a les cotisations et les impôts. Si on n'arrive pas à faire cette distinction, on a perdu dans
ces droits. Ces droits sont à géométrie variable, peuvent être modifiés. Je suis désolé. Voilà.
Mais c'est pas pareil, une cotisation et un impôt.
C'est pas pareil. En tout cas.
Oui, mais c'est un prélèvement obligatoire.
Mais
il n'y a pas de raison de penser que l'État ne doit pas décider aussi de ces règles. Notamment parce que ça joue énormément sur les autres dépenses publiques.
Et que l'État. Mais c'est deux points différents qui se tiennent, mais voilà. Il n'y a pas un qui est faux et un qui est juste.
L'architecture en fonction de cotisation ou d'impôt et l'état d'esprit même du système est quand même effectivement très différent. Je veux absolument vous entendre, Emmanuel Combes, sur un sujet qui m'intéresse et il vous intéresse aussi, c'est la politique industrielle. On a vécu un événement quand même important hier, Elisabeth Borne s'est rendue dans l'Oise dans un centre de R&D de Plastic Omnium et elle a désigné les 10 entreprises qui allaient bénéficier de 2,1 milliards d'euros de subventions pour développer leur projet hydrogène. Et là, on est vraiment sur... On dit toujours, il n'y a pas de projet, le monde d'après. On est sur le monde d'après, et la question est, est-ce que là, on est sur une bonne et une vraie politique industrielle où l'État joue un rôle de bonne qualité avec de la dépense efficace?
La réponse est oui sur le principe. Après, là, tout est question de gouvernance. Mais pour relier à tous les sujets qui ont été abordés, c'est le même sujet. Alors, on en parle moins parce qu'on parle de très très long terme. C'est moins médiatique, mais on est toujours sur cette même idée de politique de l'offre. Accroître la quantité de travail, assurance chômage, retraite, et là on est sur l'investissement, l'investissement dans l'avenir qui va lui-même créer de la richesse. C'est intéressant parce qu'en réalité cette politique industrielle, elle est assez récente en Europe. Moi c'est ça qui me frappe. Elle date de il y a 4-5 ans, on va dire l'arrivée de notamment Thierry Breton. Car en réalité ce qui se passe en France n'a pas été décidé en France, faut bien le dire. Ce sont des politiques européenne. Pour ceux qui douteraient de l'intérêt de l'Europe, là on voit la force de l'Europe qui est en train, à mon avis, de naître. On a une vraie Europe industrielle qui est en train de naître, avec les fameux, on appelle ça les PIEC, des programmes d'intérêt commun. Il y en a eu dans les semi-conducteurs, il y en a eu dans les batteries électriques, et aujourd'hui dans l'hydrogène, il y a même deux projets
PIEC. L'Europe se réveille en ce moment, sur plein de sujets.
C'est plus que se réveiller. Et c'est vraiment intéressant, pourquoi ? Parce que pour un économiste, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert tout ça ? En clair, pourquoi le privé ne le fait pas ? Seul. Alors d'abord, ce sont des partenariats public-privé. C'est intéressant, c'est l'État met la main à la poche, mais également le secteur privé. Et en fait, on retrouve la bonne vieille théorie économique, comme quoi l'économie, ça marche. Il y a une défaillance de marché. La concurrence seule, le marché seul, ça ne marchera pas. Moi, je vois au moins 6 raisons. Première raison, quand vous lancez dans l'hydrogène, l'hydrogène, c'est pas un produit, c'est un écosystème. Il faut des batteries, d'électrolyse, il faut des réservoirs à hydrogène, des piles à combustible. Et donc, il faut que les entreprises se coordonnent entre elles. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui donne l'impulsion, personne ne fera rien. C'est l'œuf et la poule. Donc d'abord, il y a un problème de coordination. L'État, il est là pour lancer un grand programme. Secondement, vous avez l'idée qu'il y a une prise de risque. On ne sait pas si ça va marcher. On est quand même dans des activités à forte intensité à recherche-développement. Donc, il paraît logique qu'une partie du risque puisse être supportée par l'État. Un peu comme le vaccin au moment du Covid. Souvenez-vous, le gouvernement américain qui avait dit, voilà, je mets 10 milliards de dollars sur la table parce que je considère que trouver un vaccin n'est pas une certitude. Troisièmement, l'horizon temporel est quand même assez long. On parle d'horizon sur 10 ans, 15 ans. Il n'est pas complètement intuitif que le privé seul puisse se projeter. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire.
Mais bloquer son argent
après
15
tout, le Nasdaq, ça existe et ça marche très bien. Mais il n'est pas évident que ça suffise toujours, surtout quand on est dans une innovation assez radicale. Quatrièmement, on est quand même sur des investissements qui sont très en amont. Recherche, développement, infrastructure, donc ça ne pose pas véritablement de problème de concurrence. J'ai même envie de dire, grâce à cette politique industrielle, vous allez créer de la concurrence demain, puisque vous allez créer un marché. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette politique, et ça rappelle ce que font les Américains, ce qu'ont fait les Japonais il y a 30 ans, c'est qu'on ne désigne pas à l'avance le vainqueur. On ne vous dit pas, telle entreprise va être en charge de la politique hydrogène. On vous dit, voilà, qui veut participer à ce grand programme européen ? J'ai regardé, il y en a 29 entreprises sur ce seul programme hydrogène. En clair, on crée de la concurrence entre les entreprises. Et donc, politique industrielle et concurrence, non seulement ça ne s'oppose pas, mais j'ai même envie de dire, c'est la politique indus en amont qui va vous créer ensuite de la concurrence en aval.
On fait plus du top-down, mais du bottom-up.
Ah oui. Et puis le dernier argument, c'est que si vous avez une filière hydrogène qui naît, il y aura des profits pour les entreprises privées et des emplois, mais il y aura aussi des effets externes sur toute l'économie. Et là, on retrouve notre histoire de croissance économique. Les investissements ont un profit privé, mais ils ont aussi des retombées positives sur toute l'économie. Et ça, ce n'est pas pris en compte par définition par l'investisseur privé, ce qui est assez logique. L'investisseur privé, il regarde son profit. Donc, pour toutes ces raisons, on se dit, mais finalement, c'est assez logique. Et c'est important, ça, parce qu'on a toujours cette idée d'opposer politique industrielle à concurrence. À mon avis, c'est un faux débat. Sauf si on considère que la politique industrielle, c'est marier deux entreprises pour qu'elles deviennent un géant. Là, en fait, on fait un peu l'inverse. On n'a pas de géant, parce qu'on part de zéro. C'est la page blanche. Et on va simplement permettre, peut-être demain, à des entreprises européennes de devenir des nouveaux géants. Donc, vous voyez, c'est intéressant, ces deux visions de la politique industrielle. Ce n'est pas de la consolidation, c'est plutôt permettre, grâce à des grands programmes, très en amont, de voir émerger demain des nouvelles pépites.
Philippe Aguillon aurait été là, il aurait bu du petit lait. Parce que je crois que là, vous êtes...
C'est de la théorie économique de base, mais ça marche, l'économie.
Oui, mais... expliquer que ce que l'on fait là, c'est on tire les enseignements de ce que l'on n'a peut-être pas fait par le passé, l'idée qu'on allait aller, je vais vous faire une super entreprise publique en monopole qui va tout faire toute seule. Eh ben là, on fait pas du tout ça.
Non.
Eh ben, c'est pas mal de ne pas faire ça parce que.
Et ça marche. Enfin, je veux pas ouvrir une parenthèse trop longue, mais on a l'expérience des Japonais. Les Japonais, et c'est très intéressant. Chaque fois qu'ils ont ciblé sur une politique industrielle en désignant le vainqueur à l'avance, ça a été un échec. Et chaque fois qu'ils ont mis de la concurrence à l'intérieur du secteur, notamment l'automobile, on oublie de dire qu'il y a 10 constructeurs automobiles au Japon. 10 constructeurs automobiles, ça a plutôt réussi. Donc c'est intéressant. La concurrence est un moyen pour atteindre un objectif de politique industrielle qui, en plus, est un objectif de création de marché.
Impeccable démonstration, j'adore.
Je sais pas
Si. Et puis, je suis content qu'on parle de business, de politique industrielle. On fait beaucoup de macro ici, c'est logique, mais... J'aimerais vous faire réagir, allez, 3 minutes. J'ai été frappé par ce que dit Bruxelles sur le RSA, Éric Heyer. Bruxelles, libéral... Le RSA, enfin, je prends le RSA, mais il parle à tous les pays d'Europe. Vous avez des revenus minimums trop bas dans la situation que nous vivons. Les gens vont devenir pauvres, il va y avoir de l'exclusion sociale... Sous-entendu, il va y avoir des troubles sociaux. Et le RSA, nous dit Bruxelles, il est beaucoup trop en dessous du seuil de pauvreté. On est quoi, à 550 euros pour 1086 euros, je crois, le seuil de pauvreté. Et, il est beaucoup trop dur à obtenir. Donc les publics concernés sont souvent des publics peu avertis. Et pour eux, c'est un frein objectif. Et puis, vous le donnez pas aux jeunes, c'est juste une erreur.
Oui.
Ça vous inspire quoi ? L'idée qu'il faut remonter le RSA, le simplifier et le donner au moins de 25 ans ?
Oui, rapidement, il y a deux points. Il y a le changement un peu de discours de la Commission européenne, mais qui est assez, qui est assez nouveau, mais sur plein de domaines. C'est-à-dire qu'avant, si je caricature un peu, ils nous disaient il fallait délocaliser au maximum pour avoir les prix les plus bas, il fallait déréglementer au maximum le marché du travail pour avoir des salaires les plus faibles, il fallait favoriser les distributeurs par rapport aux producteurs pour avoir les prix les plus bas, il fallait aller dans les énergies qui coûtaient le moins cher. Donc en gros, tout était mis pour avoir les prix les plus bas, pour que le consommateur ait le pouvoir d'achat le plus élevé. C'était ça un peu, j'ai caricaturé.
Mais non, mais c'est pas gros, caricaturé,
la doctrine.
C'est la philosophie de la mondialisation.
Aujourd'hui, ils nous disent, on parlera du RSA, mais ils nous disent, il faut relocaliser parce qu'il faut retrouver la souveraineté industrielle, médicale, etc. Donc, relocalisons, donc les prix vont être plus élevés. Ils nous disent, il faut commencer à réfléchir aux indépendants, aux salariés de seconde ligne, donc il faut quand même commencer à augmenter un peu les salaires pour certaines catégories, d'accord ? Il va falloir, en gros, maintenant, commencer à parler des agriculteurs et des producteurs et pas que des distributeurs. Donc, et là, le RSA. Donc, ils vont jusqu'au bout de l'histoire en disant, on sort de la stratégie un peu low cost où le pouvoir d'achat était donné par des prix les plus bas. Peut-être que le pouvoir d'achat peut être aussi donné par des revenus un peu plus élevés, mais donc ça veut dire que les prix vont être un peu au-dessus. Donc, vous voyez, on n'a pas parlé d'inflation, il fallait quand même en parler un peu dans cette émission. C'est que globalement, les prix vont être plus élevés aussi demain par cette stratégie. Et là, c'est vrai que dans le cas français, ce qui est sans doute le plus honteux, moi, quand je vois le RSA, c'est le taux de non-recours. C'est-à-dire que dans toutes ces aides sociales, le taux de non-recours tourne aller aux alentours de 50%, ça dépend les aides. Mais ça veut dire que systématiquement, la moitié des personnes qui auraient droit ne le demandent pas. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Mais c'est ça, à ça il faut s'attaquer. C'est pas forcément augmenter ces aides, mais il faut que tout le monde y ait droit. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que augmenter la simplicité ou dire c'est pas honteux d'être dans un minima social ? Je pense que ça, c'est intéressant.
On a 30 secondes, si vous voulez dire un mot là-dessus, Stéphane Carcillo, pour les moins de 25 ans, le rendre plus simple et augmenter le montant. Non, je lui donne 30 secondes avec trois questions monstrueuses.
Ouais, non. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec le fait que le taux de non-recours, c'est un vrai sujet. Et du coup, la solution, c'est l'automaticité du versement. Donc ça, c'est une bonne solution. J'ai toujours pas compris la raison d'exclure les moins de 25 ans de ces dispositifs. Nulle part, on les exclut. Donc, il faudrait effectivement prévoir un accès beaucoup plus simplifié. En revanche, aujourd'hui, les minima sociaux sont revalorisés par l'inflation de manière régulière. Le vrai sujet de la pauvreté, dans aucun pays, les minima sociaux ne permettent de dépasser le seuil de pauvreté, qui est un seuil relatif, je vous le rappelle. 50% du revenu médian, ou 60% selon les mesures. Et donc, le sujet, en fait, en France comme dans d'autres pays, c'est le nombre d'heures travaillées, c'est l'accès à l'emploi, le vrai sujet de la pauvreté. On ne va pas résoudre la pauvreté uniquement en augmentant les minima sociaux.
Mais c'est en augmentant le taux d'emploi.
Voilà.
Pourquoi c'est déjà fini ? On avait la concurrence CPTF, M6, il y avait plein de trucs. Bon, merci à vous trois, Stéphane Carcillo pour le Cercle des économistes, comme chaque jeudi, Eric Ayer, Emmanuel Combes, rendez-vous demain à 9h.